RFI, 21h à Paris, 20h en temps universel.
Christophe Paget.
Bonsoir à toutes et à tous. À la une de ce journal, la réunion ce mardi entre Américains et Russes à Riyad, en Arabie Saoudite. On y a parlé de l'Ukraine, mais les Russes s'intéressent aussi à la levée des sanctions économiques qui les visent, nous dira Justine Fontaine. Le Hamas annonce qu'il rendra 4 corps d'otages israéliens ce jeudi et qu'il va en libérer 6 ce samedi. De son côté, le Liban compte saisir le Conseil de sécurité. Israël ne s'est pas retiré de tout le sud Liban. Beyrouth parle d'occupation. Emmanuel Macron a reçu pendant 1h30 les familles des otages français détenus en Iran. Objectif, les rassurer sur la mobilisation des autorités, mais aucune échéance ne leur a été donnée, nous dira Romain Lemaresquier. Et puis Edgar Gros-Piron, le champion olympique de ski, sera à la tête du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030 dans les Alpes françaises. On l'a appris cet après-midi. Une nouvelle réunion sera organisée demain à Paris, après celle d'hier qui rassemblait plusieurs pays européens pour montrer un front uni sur l'Ukraine. Le début de dialogue entre Moscou et Washington les avait pris de court. La nouvelle réunion va rassembler les pays alliés de l'OTAN qui n'étaient pas présents ce lundi, parmi lesquels le Canada, la Grèce ou encore la Finlande. Interrogé ce matin sur France Info, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est revenu sur la position de l'Europe face aux négociations qui ont l'air de se jouer sans elle. Il a plaidé pour la création des conditions d'une paix durable.
Nous ne voulons pas d'un cessez-le-feu bâclé. Ce dont nous voulons, c'est d'un traité de paix en bonne et due forme qui mette fin une bonne fois pour toutes pour cette guerre en Ukraine qui traîne depuis maintenant 11 ans. Il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, un cessez-le-feu a été conclu entre l'Ukraine et la Russie. C'est ce qu'on appelle l'accord de Minsk. Eh bien, ce cessez-le-feu, il a été violé 20 fois depuis. Et il a conduit la Russie à un moment donné à dire « Allez, j'envahis ». L'Ukraine à grande échelle. Eh bien, tout cela, nous n'en voulons pas. Et si nous voulons éviter que la ligne de front se rapproche de nous, il nous faut un traité de paix qui dissuade définitivement la menace russe.
Jean-Noël Barrot chez nos confrères de France Info. Justement, ce mardi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui était en visite en Turquie, a appelé à des pourparlers équitables incluant l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Turquie. La Turquie que son président Recep Tayyip Erdogan a proposé pour accueillir des pourparlers de paix. L'autre rencontre de ce mardi, dénoncée par Volodymyr Zelensky, c'était à Riyad, celle entre Russes et Américains, qui se sont mis d'accord pour nommer des négociateurs pour le règlement de la guerre en Ukraine. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est dit convaincu que la Russie voulait s'engager dans un processus sérieux pour mettre fin à la guerre. Il a aussi souligné qu'un accord sur l'Ukraine devait être acceptable pour tous et que les Européens devaient être à la table à un moment donné. Les Russes, de leur côté, ont estimé que les Américains commençaient à mieux comprendre la position de Moscou. Des Russes qui affichent déjà leur optimisme quant à une possible levée des sanctions économiques contre Moscou. Justine Fontaine.
Méthode couée ou réelle avancée, impossible à dire pour l'instant, mais à l'issue des pourparlers, pendant une conférence de presse, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a résumé ainsi les discussions avec les États-Unis.
Il y a eu un vif intérêt pour la levée des obstacles artificiels au développement d'une coopération économique mutuellement bénéfique.
Plus tôt dans la journée, un autre membre de la délégation, le patron du fonds chargé des investissements étrangers en Russie, espérait même voir des progrès d'ici 2 ou 3 mois seulement. Pour convaincre Washington, Kirill Dmitriev, c'est son nom, vise le portefeuille. Les entreprises américaines ont perdu 300 milliards de dollars en quittant la Russie, assurait-il ce mardi juste avant l'ouverture des pourparlers. Un chiffre largement surévalué, mais l'argument peut parler à Donald Trump qui est toujours dans une logique transactionnelle. En réalité, un assouplissement des sanctions favoriserait surtout la Russie, car même si Moscou les contourne en partie, ces sanctions s'ajoutent aux dépenses énormes liées à la guerre. Résultat, l'inflation est presque à 10% sur un an et les perspectives de croissance pour cette année sont moroses.
Justine Fontaine, pour autant, selon les Russes, un sommet entre les présidents Poutine et Trump est pour le moment prématuré. Le Hamas a annoncé ce mardi qu'il allait rendre 4 corps d'otages israéliens et qu'il allait libérer 6 otages. Les 4 corps d'otages israéliens, il va les rendre ce jeudi. Les otages seront libérés ce samedi. Et parmi ces otages, 2 hommes détenus dans la bande de Gaza depuis des années. Cette annonce intervient alors que le ministre israélien des Affaires étrangères affirme que les discussions sur la phase 2 de la trêve dans la guerre Israël-Hamas allait finalement commencer cette semaine. Et Gideon Saar a déjà souligné que son pays exigeait une démilitarisation complète de Gaza pour la période de l'après-guerre. Israël, par contre, ne s'est pas retiré de tout le sud Liban, contrairement à ce qui avait été conclu en novembre dernier dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Il a maintenu son armée dans 5 positions qualifiées de stratégiques. Le Liban dénonce une occupation et annonce qu'il va saisir le Conseil de sécurité. L'Iran accuse formellement d'espionnage un couple de Britanniques arrêtés dans le pays le mois dernier. Londres se dit profondément inquiet et souligne être directement en contact avec les autorités iraniennes. De son côté, le président français Emmanuel Macron a reçu les familles des otages français détenus en Iran. La rencontre, qui a duré une heure et demie avec les familles de Cécile Kohler, de Jacques Paris et Olivier Gondeau, visait à les rassurer quant à la mobilisation des autorités, même si aucune échéance ne leur a été donnée. Romain Le Maresquier.
Le président nous a donné un certain nombre d'informations sur les négociations qui ont eu lieu pour la libération des otages, déclarait Noémie Kohler, la sœur de Cécile Kohler, à sa sortie du palais présidentiel. Selon elle, cette rencontre avec Emmanuel Macron a rassuré les familles sur le fait que les autorités françaises sont complètement mobilisées pour obtenir la libération de ces trois ressortissants français. Ce qu'on a compris, c'est que c'était très compliqué. Les autorités iraniennes refusent les solutions qui sont proposées par la France, donc c'est de leur côté que ça bloque, a expliqué la sœur de Cécile Kohler. L'absence d'échéance pour une éventuelle libération a été vécue comme un coup de massue par les familles des trois détenus. Pour rappel, Cécile Kohler et son compagnon Jacques Paris sont détenus depuis le 7 mai 2022. Olivier Gondeau, qui est sorti de l'anonymat au début du mois de janvier, est quant à lui détenu depuis plus de 2 ans. Emmanuel Macron n'avait pas hésité à parler d'otages le 31 janvier dernier lors d'un rassemblement à l'occasion du 1000e jour de détention de Cécile Kohler et Jacques Paris, des propos que l'Iran avait critiqués, les estimant non constructifs.
Romain Le Maresquier. François Bayrou n'est jamais intervenu, ni de près ni de loin, auprès des enquêteurs ou de la justice dans l'affaire de violences sexuelles au sein de l'école catholique Bétaram. C'est ce qu'a dit ce mardi le Premier ministre français lors de la séance des questions à l'Assemblée. Par contre, il a contre-attaqué en visant le gouvernement socialiste de Lionel Jospin, affirmant que le procureur général a tenu au courant la chancellerie et donc la ministre de la Justice de l'époque, Elisabeth Guigou. Il a aussi estimé que devant un signalement aussi important, la ministre de l'Éducation, Ségolène Royal à l'époque, avait forcément été elle aussi mise au courant. Ségolène Royal qui a immédiatement réagi, elle envisage une action pour dénonciation calomnieuse. Toujours en France, la nomination de Richard Ferrand s'annonce compliquée. C'est le président Emmanuel Macron qui avait choisi ce proche pour prendre la tête du Conseil constitutionnel et Laurent Wauquiez a annoncé que les députés du groupe LR à l'Assemblée voteront contre cette candidature demain lors de la commission des lois. C'est une personnalité qui pose un problème d'éthique, qui pose un problème d'impartialité et qui pose un problème parce qu'il n'a pas d'expertise juridique, a affirmé Laurent Wauquiez. On passe au cinéma avec cette question. Peut-on nouer des relations affectives fortes par le fait du hasard? L'Attachement, film français de Karine Tardieu, qui sort cette semaine dans l'Hexagone, explore les nouvelles recompositions familiales et les liens inattendus qui peuvent se nouer. Une célibataire féministe attachée à son indépendance, jouée par Valeria Bruni-Tedeschi, va ainsi se lier d'affection pour un petit garçon orphelin, Sophie Torlotin.
Excuse-moi, j'ai perdu les os. Comme tu m'avais dit que pour une heure ou deux...
Moi, j'ai dit ça.
Lorsque ses voisins partent en catastrophe à la maternité, Sandra, sur le palier d'en face, se retrouve à s'occuper d'un petit garçon de 5 ans qu'elle connaît à peine.
Tu connais rien au petit garçon, t'as pas d'enfant.
Je me préparais.
La libraire féministe, qui n'a jamais voulu d'enfant, va devenir la figure d'attachement du petit Elliot lorsque sa mère décède en mettant au monde sa petite sœur.
Il faut que je te dise quelque chose de très triste au sujet de maman.
Librement adapté du roman « L'intimité » d'Alice Fernet, ce film explore les liens qui se créent entre des êtres réunis par les circonstances de la vie. La voisine, le beau-père du petit garçon, la mère de la jeune femme décédée. Sans pathos, Karine Tardieu explore avec subtilité et délicatesse la complexité des rapports humains. L'attachement émeut en abordant des sentiments profonds comme le deuil et la solitude, mais aussi l'amour et l'amitié.
Sophie Torlotin, L'Attachement sort demain sur les écrans français. Et puis c'est le champion olympique de ski, Edgar Gros-Piron, qui sera à la tête du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030. Ça se passera dans les Alpes françaises. Cette annonce intervient après le retrait du biathlète Martin Fourcade, dont on s'en souvient début février, et aussi après des mois de retard. Une annonce qui était à l'origine prévue en effet pour l'automne dernier. RFI, 21h10 bientôt à Paris, 20h10 en temps universel. N'oubliez pas notre site internet pour vous tenir, là aussi, au courant de l'actualité française et internationale, www.rfi.fr.